Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment, c'est toujours une joie, c'est un plaisir de me retrouver avec vous et parmi vous cet après-midi. Et je vous invite à nous réfléchir ensemble sur voilà les versets que nous venons de lire. Toi, viens et suis-moi. Et tout à l'heure, quand je réfléchissais justement à ce message, je me dis mais moi j'ai presque envie là tout de suite d'aller à la conclusion. Si le Seigneur, là, maintenant, vous disait, là, au fond de votre cœur, « Toi, viens et suis-moi », qu'est-ce que vous répondriez? Là, il s'est adressé à deux frères, Pierre et André, « Venez, venez à moi, venez avec moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et suivirent Jésus. Ils ont tout laissé. Et puis, Lévi, un publicain, quelqu'un quand même d'intelligent, de bien placé dans la société, il est assis au bureau de péage, en fait, le droit d'entrée dans les villes, comme nous quand on prend l'autoroute, par exemple, là il y a des barrières de péage. Et là, Jésus passe et lui dit « Suis-moi, suis-moi. » Il n'y a pas eu besoin de discours. « Suis-moi. » « Suis-moi parce que, voilà, Jésus, il n'y a pas d'explication. » La demande, elle est courte, elle est précise. « Suis-moi. Toi, suis-moi. » Et qu'est-ce qu'il fait Lévi? Est-ce qu'il pose une question? « Qui es-tu? Que me veux-tu ? » Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Non, il se lève et il le suit. Je vous laisse quelques petits instants pour dire, mais si le Seigneur te disait, toi, suis-moi, qu'est-ce que tu lui répondrais? Lorsque j'avais 15 ans, c'était il y a quelques années en arrière maintenant, mes parents m'ont envoyé dans un centre de vacances en Belgique. Un camp de jeunes, bon, j'avais pas du tout envie d'y aller, mais bon, je me suis dit, au moins, ça me changera un petit peu. Et un soir, il y avait une veillée, et nous étions tous là, et le prédicateur a parlé sur la parabole du jeune homme riche. Vous vous souvenez de cette parabole? Dans Luc, chapitre 18, et à partir du verset 18, alors un notable demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» dit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » « Mais tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » « Oui, tout cela, lui répondit le jeune homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Je l'ai mis en pratique. À ces mots, Jésus lui dit, parce que vous savez que Jésus, il regarde un petit peu plus loin que nos paroles. Il te reste encore une chose à faire, dit-il à ce notable. Vends tout ce que tu possèdes et distribue le produit de la vente aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand le notable entendit cela, il fut profondément attristé, car il avait beaucoup de richesses. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit, « Oh, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !» Et là, ceux qui étaient autour se disent, mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus lui rappelle d'observer les commandements de Dieu. « Oui, mais ce gars les observait tous, alors, il était où le problème? Le problème était dans sa richesse, son Dieu, son idole, sa sécurité, son assurance. C'est pour ça que quand Jésus lui dit, va et vends, puis suis-moi. Souvenez-vous, Lévi et puis les deux frères tout à l'heure, ils ne lui ont pas dit, mais bon, on est riche, on est pauvre, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, que faut-il pour être sauvé? Non. Ils ont tout abandonné et ils sont partis avec Jésus. Moi, je n'aurais pas imaginé que c'était possible, quelque chose d'aussi facile que ça. Ce jeune homme-là, il paraissait être riche, mais en fait, il n'était pas heureux. Ben, pas heureux parce que la richesse n'achète pas le salut. Donc, il n'avait pas suivi Jésus. Alors, moi, je me disais, au moment de la prière finale, mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas suivre ce Jésus ? Qu'est-ce qui fait ? Moi, je savais qu'au fond de moi-même, je savais qu'il me manquait quelque chose. Mais quoi ? Est-ce qu'il me manquait ce Jésus, justement ? Et si Jésus me disait à moi, au travers de cette parabole, je voulais presque me boucher les oreilles, parce que si Jésus me disait « Toi, suis-moi », qu'est-ce que je lui répondrais ? Donc, j'ai élaboré plusieurs réponses, plusieurs scénarios. Ben, je vous rappelle que j'avais 15 ans. Donc je lui dis, mais je suis jeune encore. Peut-être à la retraite, j'aurai le temps d'y penser. Et puis je veux profiter de la vie. Profiter de la vie. Je veux d'abord travailler, je veux fonder une famille, je veux pouvoir m'acheter une maison, voyager, et ainsi de suite. Mais peut-être aussi je ne suis pas assez bon pour être chrétien. Que peut-être il faut une certaine position, un certain moi qui serait jugé utile à Dieu de me dire « Toi, suis-moi. » Et puis, j'avais un gros problème à l'époque, c'est que j'étais super timide. Et timide, je ne vous raconte pas comment. Alors, je suis longtemps resté sur ces réflexions en me disant « Le jour où Dieu va me poser la question, j'ai au moins des éléments de réponse. » Quelques années plus tard, j'ai dû subir une opération chirurgicale et j'étais dans un tel état de détresse, avec un profond désir de mourir. Voilà, pendant ces 3 années, c'était entre 15 et 18, c'était le chamboulement dans ma tête. Je ne savais pas du tout où était ma place. D'ailleurs, pour vous dire, j'étais à tel point dans la déprime, voire plus, que j'ai même dit au revoir à ma mère, ne pensant ne pas la revoir après cette opération. Mais au réveil, il y a eu un réveil, j'étais encore là, et j'ai entendu cette voix qui disait « Toi, suis-moi ». Je dis « Mince, ça y est, la question arrive. » Mince, la question arrive. J'avais quand même, pendant ces quelques années, senti que Dieu m'aimait. Mais moi, je n'arrivais pas à me laisser aimer par Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient, les autres chrétiens, de plus que moi ? Est-ce que c'était des surhumains ? Est-ce que c'était des surdoués ? Pourtant, en les regardant, je n'avais pas l'impression que nous étions différents. J'avais toujours peur d'avancer avec le Seigneur, toujours. J'ai même renoncé à suivre une institut biblique tellement je ne savais pas comment j'allais me débrouiller. Puis le Seigneur a laissé passer le temps. Et puis régulièrement, il me disait « Toi, suis-moi ». Vous savez, le Seigneur, quand il vous appelle, il ne lâche pas l'affaire. Quand il vous a appelé, il ira jusqu'au bout, ça prendra le temps qu'il faut. Mais il ira jusqu'au bout. Un jour, j'ai participé à une réunion de groupe de jeunes, et le responsable disait, tiens, pour la semaine prochaine, Jean-Michel, pof, tu vas nous préparer une petite réflexion. Ah ben non, c'est pas possible, moi je peux pas parler. Et j'ai dit, bon, ben, j'ai quand même secoué la tête. Je ne savais pas comment faire. Alors je me retrouve devant cette Bible, qui est épaisse, hein, comme vous pouvez le savoir, et je dis, là, je fais quoi, Seigneur ? avec ce que l'on me demande, de faire un petit partage. J'ose pas, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Guide-moi. Et je serais incapable aujourd'hui de vous dire comment ça s'est passé, mais j'ai ouvert Apocalypse, le livre le plus simple de la Bible, hein, forcément. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil des seigneurs. Et donc, voilà, j'ouvre Apocalypse et je tombe sur ces versets d'Apocalypse qui disaient, et devinez quoi ? Je vous le donne en mille. Est-ce que tu es froid ? Est-ce que tu es bouillant ? Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et là, j'ai dit, mince Seigneur, il va falloir que je parle sur ça. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Quand nous voulons faire quelque chose, il faut y aller, il faut le faire. On va dire à fond, mais pas « Oui Seigneur, je veux bien te suivre, mais il faudrait quand même que je fasse… » Voilà, ça c'est la tiédeur que Dieu ne veut pas. Ou de rester dans son coin, de ne rien dire et d'attendre que cela se passe. J'ai pris une douche froide et j'ai pu le partager. Bon, bien sûr, je l'ai écrit pour pouvoir le lire, mais je l'ai partagé avec tous les jeunes qui étaient là. J'ai pu goûter ce verre d'eau qui était présenté à moi, si moi je vous disais, ça c'est une eau spéciale, elle est très très bonne. Mais si personne n'en boit, ça sert à rien. Bon, je vais arrêter de parler de moi. Et en fait, tout cela passe, pour en arriver là, tout passe par le pardon. Le pardon, c'est la clé de la condition humaine. Notre nature nous entraîne vers le péché, vers la perdition, vers la séparation d'avec Dieu. Ce manque que nous avons ressenti à un moment donné de notre vie, ce truc, hein, on ne sait pas, parfois on n'arrive pas à le définir, mais ce truc qui fait que je ne suis pas heureux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de but dans ma vie. Peut-être je ne me sens pas digne d'être aimé. Je ne suis pas en paix, j'ai des moments de détresse, je suis en perdition. Eh bien ça s'appelle le manque de relation avec Dieu. Nous avons à notre portée un remède à cela. Le premier des remèdes, c'est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, verset 9. Et puis dans Galates 5, chapitre 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus. Il n'y a qu'un seul accès, c'est celui de Jésus. Il n'y a qu'un seul pardon, c'est celui que Dieu nous accorde. Une petite histoire. Vous savez que j'aime bien les petites histoires, donc de temps en temps j'essaie de vous en partager une. On remonte à quelques dizaines d'années en arrière. Ça se passe aux États-Unis en 1830. Il y a un détenu qui s'appelle Jay Wilson. Et avant de comparaître devant la Cour de justice de Philadelphie pour vol et meurtre, il fut condamné à la pendaison. Le président de l'époque, le président Jackson, le gracia. Vous imaginez, tu es condamné à mort, tu es condamné à être pendu parce que tu as commis des vols, des crimes, et quelqu'un, une autorité supérieure, te dit « Je te gracie ». Ça veut dire, vous souvenez quand j'ai utilisé cette image de l'ardoise paperboard et son papier avec le crayon, on note quelque chose et puis, eh ben, ça c'est ce que je te reproche, ça c'est ce qui t'amène à la mort, eh ben je l'efface. Il n'y a plus de traces. Même derrière, on ne voit plus rien. Donc lui, Jay Wilson, on a effacé ses vols, on a effacé ses meurtres. Tu peux rentrer chez toi, tu es libre. Et vous savez ce qu'il a fait, Jay Wilson ? Il a refusé. Il a refusé la grâce présidentielle et décréta qu'il n'y aurait de pardon que lorsque lui-même l'accepterait. J'accepte d'être pardonné. La question fut débattue en Cour suprême. Eh oui, c'était une première. Et en conclusion, le juge, il écrivit ceci. Le pardon est un acte écrit dont la valeur dépend de l'accord de la personne impliquée. Si le condamné à mort refuse d'être gracié, ce qui paraît invraisemblable, il n'y a donc pas de pardon. Et Wilson fut pendu. Elle pose des questions, elle porte à réfléchir. Est-ce que moi je me place au-dessus de l'autorité? Si Dieu nous dit, si vous ne confessez pas vos péchés, il n'y a pas de salut. Il dit, ben non, parce que moi je suis plus intelligent que Dieu, moi j'ai rien à confesser. J'ai pas de péché. Donc je pense que je vais court-circuiter le juge. Eh bien non, je ne pourrai pas le court-circuiter. Un autre personnage dans la Bible qui est intéressant, c'est Nicodème. On retrouve son histoire dans Jean chapitre 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vient auprès de Jésus et lui dit ceci. « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, mais parce qu'il est dans cette optique de « je m'adresse à un docteur ». Il lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ben oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa maman et renaître? Ben non, c'est impossible. C'est impossible. Mais Jésus lui dit, non. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y avait une confusion dans la tête de Nicodème, vous savez, mais il y a de la confusion dans la tête de beaucoup de personnes qui s'imaginent des processus. Quand la Bible dit naître de nouveau, ils ont l'impression qu'il faut... Et il faut presque se réincarner dans un nouveau bébé pour pouvoir accéder à... Non, pourquoi chercher ça? C'est des complications. Naître de nouveau, voilà, c'est confesser. Demander pardon et recevoir l'assurance du salut. Ça, c'est naître de nouveau. Cette espérance, elle est donc possible. C'est naître de nouveau. Il n'y a pas d'épreuve de torture, il n'y a pas besoin de se sacrifier, de se couper quelque chose, de je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas besoin d'aller se crucifier. Jésus l'a fait à notre place. Suivre Jésus signifie lui donner la priorité. Là, si on revient, parce qu'on revient quand même à nos différents versets, c'est lui donner priorité. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Tout. Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui nous empêche de le suivre. Abandonner tout ce qui m'empêche de le suivre. Troisièmement, suivre Jésus signifie mourir à soi-même. Là, quelque part, ils sont morts à eux-mêmes, ils ont renoncé à ce qu'ils faisaient. Ils ont renoncé à continuer à pécher, ils ont renoncé à continuer à percevoir les impôts. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus dit à tous, Jésus vous dit aujourd'hui par sa parole, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, même si c'est Jésus qui l'a portée, hein, et qu'ils me suivent. En fait, c'est pas comprendre que oh, je suis chrétien, mais alors Jésus me met une croix sur le dos. C'est trop lourd. C'est pas cela du tout. J'irais plutôt, c'est faire une croix sur ce que nous, nous mettons sur notre dos, sur nos fardeaux à nous, pas sur ceux que Dieu met. Parce que Jésus dit dans sa parole aussi que mon joug est doux, mon fardeau léger. Il ne peut pas dire le tout et son contraire. Si on pense que être chrétien, c'est une charge, elle n'est pas comparable à celle que le commun des mortels laisse peser sur ses épaules. Alors, mes bien-aimés, toi, viens et suis-moi. Suivre Jésus, ce n'est pas une évidence. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été une évidence. Ça a mis du temps. On peut aussi se cantonner au minimum vital. Bon, ben voilà, j'ai fait mon action. J'ai demandé pardon. Ok, j'ai reçu le pardon. Je suis passé par les eaux du baptême si je l'ai fait. Et la Bible nous encourage à le faire. Je vais à l'église de temps en temps. Et voilà. C'est ce qu'on appelle le minimum vital. Mais je ne pense pas que Lévi et les deux autres, quand Jésus a dit « Venez, suis-moi », ils ne sont pas restés des kilomètres derrière. Ouais, on va te suivre, mais de loin, au cas où tu nous demanderais de faire des trucs. Ça, il y en aura sûrement d'autres plus près. Se contenter de peu. Suivre Jésus, c'est pas de tout repos. Hein, on dit souvent que la vie du chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est une nouvelle vie, c'est apprendre à connaître Dieu au travers de plein de choses. Des bons moments, des moments moins agréables, mais toujours pour se rapprocher de lui. Donc si aujourd'hui, Dieu vous dit, toi viens et suis-moi, faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, n'allez pas chercher des excuses qui aux yeux de Dieu n'ont aucune valeur, ce ne sont que des excuses humaines, humaines. Et je peux vous dire tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez percuté, mais j'étais un grand timide. Je ne pouvais pas m'adresser au... Je ne vous parle pas de faire le clown à la récréation, comme on disait à l'époque, ou... Non, ça, c'était noyé dans la foule, on passe toujours un peu inaperçu. Mais quand il fallait dire ou partager quelque chose, ou parler à quelqu'un comme ça, c'était impossible. Eh bien, Dieu n'a-t-il pas fait œuvre dans ma vie? Non, je ne serais jamais là devant vous aujourd'hui. Donc ne vous sentez pas ni faible, ni timide, ni peureux, ni inconscient, ni inconsistant, ni sans valeur. Ni... Parce que ça, le diable aime bien mettre des étiquettes négatives sur notre peau, sur notre corps, sur notre cœur. Il aime bien dire « Non, non, mais ça ne le fera pas, tu ne pourras pas le faire. » Ça ne marchera pas. Ce n'est pas pour toi. Et pourtant, Jésus il nous a laissé cette phrase dans Hébreux 13, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Quand Jésus a demandé à ces personnes de le suivre, il ne leur a pas dit « Eh, maintenant, c'est vous qui allez devant et moi, je vous regarde. » Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Non, suivez-moi. Ça veut dire que Jésus marche devant. C'est comme un éclaireur. Il nous montre le chemin. Dans le jour comme la nuit. Comme vous vous souvenez, quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, ils étaient guidés nuit et jour. La nuit par une colonne de feu. D'accord ? Donc ils n'ont jamais été abandonnés, ils ont toujours été conduits. Pour toi qui cherches un sens à ta vie, il n'est pas trop tard aujourd'hui. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour pouvoir saisir la réalité de la parole de Dieu. Dieu dit qu'il use de patience. Oui, il use de patience, mais pour combien de temps ? Aujourd'hui, si vous avez été touché par cette parole, ou si vous avez déjà été touché, si Dieu, à un moment donné, vous a dit « Toi, suis-moi ». Si Dieu vous appelle, ne tournez pas, faites pas le sourd d'oreille. Ne faites pas le sourd d'oreille, tendez la main qu'il vous tend. Saisissez-la. Ce qui est formidable, c'est que nous n'aurons pas tous la même expérience. Nous pourrons partager différentes expériences. Là, je vous ai donné une très petite partie de mon témoignage, et il y en a à dire. Mais des choses intéressantes. Et il y a des choses qui ont fait mal. Mais je peux dire aujourd'hui que Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais délaissé. Je ne me suis pas retrouvé dans le désert sans point d'eau. Je ne me suis pas retrouvé dans la nuit sans une lumière. Peut-être que j'essaye de trouver encore une fois des excuses, des contournements, des « oui, mais… » Non, j'essaye de me souvenir le plus souvent possible, voilà, de ce que j'ai partagé dans Apocalypse. Jean-Michel, est-ce que tu es froid ? Est-ce que tu es tiède ? Ou est-ce que tu es bouillant ? Jean-Michel, ton objectif, c'est d'être bouillant. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être bouillant pour vous partager cette merveilleuse parole de notre Seigneur. Et que vous aussi, vous puissiez être bouillant en disant, voilà, c'est une réalité. C'est vrai. Elle est vraie, la parole de Dieu, et elle est agissante. Et ça, c'est une vraie promesse. Et c'est pas une promesse tirée juste d'un livre, sans signification. Alors donc, chers amis, toi, viens et suis-moi. Ça veut dire quoi pour vous ? Que Dieu bénisse sa parole.